France Musique. Musicopolis. Ces dames qui chantent. Amis auditrices et auditeurs, je commencerai aujourd'hui par une question. Quelles sont, à votre avis, les qualités féminines ? Oh, vous entends-je dire, voilà qui demande réflexion. Et d'ailleurs, y a-t-il des qualités spécifiquement féminines ? Est-ce que ça n'est pas une question de point de vue, d'époque, de culture ? Alors, je vais réduire le champ. Imaginez que vous êtes britannique et que vous vivez au milieu du 19e siècle. Je vous repose à présent ma question. Quelles sont, à votre avis, les qualités féminines ? Là, évidemment, il devient beaucoup plus facile de répondre. Ces qualités sont la gentillesse, le dévouement, la modestie, l'absence de prétention. Bien. Ceci posé maintenant, toujours à vous, Britanniques du 19e siècle, je demande, et qu'attendez-vous de la musique écrite par une femme ? Vous me répondez logiquement, j'attends les mêmes qualités. Il faut que cette musique soit gentille, modeste, sans prétention et, ajoutons encore, jolie. Et voilà tout.
Oh, dry those tears and calm those fears. Life is not made for sorrow. 'Twill come, alas, but soon 'twill pass. Clouds will be sunshine tomorrow. 'Twill come.
Est-ce parce que les compositrices britanniques se sont conformées aux injonctions de leur société, de composer une musique jolie, gentille, sans prétention, que leur production, en majeure partie des mélodies, ne vaut pas la peine d'être écoutée ? Certes non. Et est-ce qu'elles sont vraiment assez nombreuses pour en tirer tout un musicopolis ? Certes oui. Elles sont légion. Alors attention, je n'ai pas dit qu'elles étaient connues, reconnues, ni même répertoriées. Quoique, si en fait, on trouve de nos jours de plus en plus de listes de compositrices sur Internet. En me référant à l'une d'entre elles, plutôt bien fournie, sur un site intitulé Donne, Femme, j'ai tout de même repéré 16 compositrices nées au Royaume-Uni entre 1800 et 1825. Pas si mal, n'est-ce pas ? Et plus on avance dans le siècle, plus il y en a. Vous énumérer leurs noms serait fastidieux, je préfère vous embrosser un petit panorama général en me limitant à la période victorienne. Here again, here, 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 happy year. Oh, more unchidden, more unbeaten. Au début du 19e siècle, il existe en Angleterre un certain nombre de musiciennes professionnelles. Ce sont des interprètes, chanteuses ou instrumentistes, et parfois compositrices, qui font partie de familles de musiciens, et qui ont été enseignées par leur père, puis souvent par leur mari. Mais bien sûr, de nombreuses femmes de la haute société aussi reçoivent une éducation musicale. Un guide d'étiquette de l'époque déclare qu'une dame anglaise sans son piano ou sa plume ou son ouvrage d'agrément ou ses auteurs et ses poètes favoris est un sujet d'étonnement, peut-être même de pitié. Certaines jeunes anglaises, formées au piano ou à la harpe ou au chant, lorsqu'elles ont du talent, se tournent volontiers vers l'écriture de mélodies ou de ballades, un genre de chansons d'amour très populaire et qui sont répandues par l'intermédiaire d'éditions pas chères, souvent sur des feuilles volantes. Certaines musiciennes s'en font une spécialité, comme Charlotte Allington Barnard, dite Claribel. Certaines musiciennes britanniques essayent d'aller contre les voies qu'on veut tracer pour elles. C'est ainsi que l'une d'elles, Elizabeth Stirling, devient organiste. Elle a donné dès 1837 un récital d'œuvres de Jean-Sébastien Bach. Elle compose aussi beaucoup pour l'orgue et pour chœur, et en 1856, elle est la première femme à se présenter pour l'obtention du diplôme de musique d'Oxford. Bon, ça ne marchera pas. Il faudra attendre 1921 pour que la vénérable université accorde ses diplômes aux femmes. Mais en attendant, elles ne sont pas découragées pour autant. Il y a suffisamment de professeurs de musique sur le marché en Angleterre pour que les jeunes femmes douées puissent étudier, non seulement le piano ou le chant, mais même les rudiments de la composition. Et bien sûr, l'établissement de la Royal Academy of Music, la première école nationale de musique en 1822, vient donner un nouvel essor à l'éducation des compositrices, puisqu'en effet, cette école est ouverte aussi bien aux filles qu'aux garçons. C'est une date importante, même si la digne maison vit pas mal de déboires, puisque son financement n'est pas pérenne et dépend du bon vouloir du gouvernement. Certaines s'en vont malgré tout étudier à l'étranger, mais les autres sont bien contentes de trouver une bonne école à Londres. De Valérie White, dont nous écoutions la mélodie « The Spring Has Come »,« Le printemps est venu », sur l'un de ses propres poèmes, a été formée à la Royal Academy of Music de Londres, où elle est entrée en 1876. 3 ans plus tard, elle est la première femme à obtenir la fameuse bourse Mendelssohn, qui permet d'aller étudier au conservatoire de Leipzig. Bien que ses professeurs essayent de la convaincre de composer dans des formes plus vastes, elle se spécialise dans l'écriture de mélodies qui sont chantées en concert, notamment par Charles Santley, le chanteur le plus en vue des années 1880. Like an angel sweet beside the helm conducting it, whilst all the winds with melody are ringing, it seems to float ever forever upon that many winding river. Woods, abysses, a paradise of wildernesses, till like one in slumber bound, born to the ocean, I float down around into a sea. En 1899, dans la toute première édition de son dictionnaire de musique, George Grove n'hésite pas à affirmer que cette mélodie que nous écoutions à l'instant de Maud Valérie White est, je cite, « l'une des meilleures écrites dans notre langue ». Elle-même a déclaré à propos du texte de Shelley, utilisé dans la pièce, « la délicatesse éthérée des mots m'affecta si fortement. Ils évoquèrent en moi la vision d'une telle beauté idéale, d'un bonheur tellement ineffable, que se leva en moi un désir ardent de capturer ne serait-ce qu'une goutte de cette essence, de confectionner un écrin pour ces mots, un écrin de musique. » Maud Valérie White a également mis en musique bien d'autres poètes, Byron par exemple. pourquoi donc ces compositrices britanniques écrivent-elles des mélodies ? Non qu'elles ne composent pas dans d'autres genres, mais on dirait vraiment qu'elles se spécialisent dans les petites formes. Première raison, c'est la réponse à une demande du marché, si je puis m'exprimer de cette manière aussi terre-à-terre. Puisqu'on fait apprendre la musique aux jeunes filles, puisque le piano se démocratise, qu'il entre de plus en plus dans les intérieurs, on a besoin de petites pièces pour piano, de mélodies et de ballades sentimentales. Elles vont donc être publiées par centaines et tirées à des milliers d'exemplaires. Cette mélodie, dans le plus pur style de la ballade victorienne, a été composée en 1877 par Annie Fortescue Harrison. Et elle a reçu un accueil tout à fait incroyable. 140 000 exemplaires vendus entre 1880 et 1889. Et ça ne s'est pas arrêté, puisque la pièce a obtenu le statut de standard et qu'elle a été enregistrée jusqu'à aujourd'hui par des crooners, des chanteurs populaires, des groupes vocaux ou des grands jazzmen. Donc, les compositrices de mélodies répondent à une demande et trouvent leur public. Il y a d'autres raisons encore pour qu'elles composent des mélodies. Par exemple, le fait qu'une mélodie, eh bien, c'est pratique à jouer. Certes, il faut un piano et quelqu'un pour en jouer, et puis une chanteuse ou un chanteur, mais c'est tellement plus facile à réunir qu'un orchestre symphonique. En 1894, les éditeurs refusent de publier le cycle de mélodies de Liza Lehmann dans un jardin persan sur des poèmes d'Omar Khayyam, dont est extraite celle que nous écoutons. Son immense succès en concert a évidemment changé la donne. Si certaines jeunes femmes britanniques du XIXe siècle ont pu suivre des cours de composition, néanmoins, elles n'ont pas été encouragées à composer dans des grandes formes qui demandent plus de métiers d'écriture et ensuite beaucoup plus de moyens pour les faire entendre. Liza Lehmann, exacte contemporaine de Debussy, a été la première à qui on a commandé une œuvre de plus grande dimension, un genre d'opérette. Néanmoins, la majeure partie de son catalogue est faite de mélodies.
I have no words to tell thee how I love thee. Words are such feeble things. But I have thoughts, sweet tender thoughts about thee, and thoughts have wings.
Au Royaume-Uni, comme dans beaucoup d'autres pays, très tard dans le XXe siècle, les positions musicales dans les universités, les églises, les orchestres ont été réservées aux hommes, obligeant les femmes qui voulaient gagner leur vie par la musique à se cantonner dans les petites formes qui se vendaient facilement et qui pouvaient leur permettre d'assurer leur subsistance. Une production qui est loin d'être négligeable et qui reste pour la plus grande part à redécouvrir. En attendant, merci aux merveilleux interprètes qui nous permettent d'y avoir accès dès aujourd'hui.
Pink-tipped, like lotus buds that float on those cool waters where we used to dwell. I would have rather felt you round my throat, crushing out a life than waving me farewell.
Kashmiri Song de Amy Woodford Finden, chantée ici par Anthony Rolf Johnson, ténor, avec Graham Johnson au piano. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Clément Diaz pour les recherches et le site, Philippe Petit pour la réalisation et Pierrick Charles pour le mixage.
À réécouter sur francemusique.fr.